19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Chers amis, bonsoir. Bonsoir, chers amis auditeurs et auditrices. Heureux de vous retrouver, vous le savez. On démarre cette semaine avec pas mal de choses qui vont évidemment nous interpeller. Au sommaire de cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et jusqu'à 20h. Nous commentons, analysons et décryptons l'actualité. Ça ne change pas, chers amis auditeurs. Alors, vous savez que vous êtes prioritaire au 01 53 48 3000. Vous nous appelez quand vous voulez, durant une heure. On va parler de trois sujets. On reviendra d'abord sur cette polémique concernant la toute à peine nommée Madame Oudéa Castéra, la ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, elle provoque déjà une polémique. Vous savez, c'est des révélations de Mediapart aux accusations de mensonges. Ça commence comme ça. Et puis ensuite, on lui tend le micro lorsque Gabriel Attal, le Premier ministre, était en déplacement dans le 78. Et puis, elle s'est confondue dans, voilà, entre mensonges et puis concernant ses enfants. Nous reviendrons sur cet événement. Nous reviendrons aussi sur ses déclarations. Doit-elle démissionner? Clairement, la question s'oppose. Doit-elle s'excuser? Et puis, est-ce que les excuses, cela suffit? Nous en parlerons y compris avec vous au 01 53 48 3000. Nous reviendrons aussi sur ce gouvernement Attal. Finalement, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir savoir si la droite et la gauche, vous savez, critiquent sévèrement le choix de quelques personnalités. Alors, ce remaniement, est-ce qu'il donne l'impression que c'est un remaniement plutôt à droite ou plutôt équilibré? Alors, Gabriel Attal, le Premier ministre, se défend en disant: mais attendez, c'est des personnalités de gauche, de droite, oui, mais ils sont là pour travailler. Alors nous reviendrons sur ça. Le conflit israélo-palestine avec Gaza. Gaza, vous savez quoi? Alors nous, ce soir, dans Les Informés, nous allons nous intéresser finalement, après plusieurs semaines de combats, plusieurs semaines évidemment de conflits, nous allons nous poser une question ce soir. La seule question que beaucoup se posent, eh bien, y a-t-il finalement cette fameuse solution à deux États? C'est vrai. Est-ce qu'elle n'est pas devenue de plus en plus utopique pour la Palestine? Nous en parlerons. Et puis finalement, est-ce que cet engrenage ne va pas faire durer cette guerre du conflit israélo-palestine sur plusieurs mois, qui risque de s'étaler sur plusieurs mois? On ne parle pas de 2, 3, 4 mois. Là, on parle sur même un an. Eh bien, nous en parlerons. Et si on a le temps, même, on parlera des syndicats hospitaliers qui ont interpellé le Premier ministre Gabriel Attal sur les 32 milliards supplémentaires concernant le personnel hospitalier et puis surtout les hôpitaux français qui, rappelons-le, sont malades. L'interview du jour, c'est avec Souraya Rajdi, c'est une enseignante, elle est professeure, dans une poignée de minutes elle sera avec nous pour nous parler justement de cette polémique de la ministre de l'Éducation nationale et puis vous aussi. J'allais oublier le Quoi de Neuf avec Michel Taube à 19h50 et son billet d'humeur. Et puis, vous, au 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Souraya Rajdi, qui est professeure enseignante. Bonsoir, madame la prof.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, merci d'être avec nous Souraya Rajdi, vous êtes enseignante dans le service public justement. Alors, vous savez, il y a depuis maintenant quelques jours, rappel, elle a été nommée, la ministre de l'Éducation nationale, madame Oudéa Castéra, est déjà dans la polémique. Et certains d'ailleurs, professeurs, comme vous, réclament sa démission. Est-ce que vous réclamez sa démission, vous aussi, madame Souraya Rajdi?
Alors moi je vais préciser quelque chose, déjà je suis enseignante effectivement donc sous le ministère de l'Éducation nationale, mais je travaille dans une école privée catholique. Donc ça tombe bien, c'est le sujet.
C'est le sujet et ça tombe bien parce que rappelons-le que l'école privée catholique c'est un contrat avec l'État.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que techniquement mon patron c'est l'Éducation nationale.
Exactement, c'est pour ça que je préfère le rappeler. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toute cette polémique qui depuis sa nomination? Voilà, parlons-en, mettons les pieds dans le plat.
Alors, si on fait une petite rétrospective...
Les profs appellent d'ores et déjà une grève le 1er février. Et je pense que vous êtes... Pour le public.
Oui, on est concernant, oui. Alors, en fait, moi, ce qui me sidère un peu, en fait, pour tout vous dire, ça ne m'étonne pas, en fait, qu'elle ait inscrit ses enfants dans l'école privée, vu l'état de l'école publique. Et encore, tout à l'heure, je lisais un peu le témoignage de Florence, donc cette enseignante... du fils qui a subi soi-disant les absences répétées de cette professeure. Donc elle a confirmé qu'elle n'a jamais été absente et que même si il s'avérait qu'elle était absente, on remplaçait très très bien en 2009, donc sous l'ère Sarkozy.
Donc madame la prof, elle a menti, la ministre de l'Éducation nationale.
Alors il y en a une des deux qui ment.
Mensonge. Bah, la prof, votre collègue, confirme qu'elle n'a jamais été absente. Nicolas Poincaré, j'ai Nicolas Poincaré qui est journaliste, qui est donc un confrère, qui est sur RMC Info, qui lui ce matin témoigne, qui dit qu'il avait ses enfants qui étaient dans la même école que la ministre de l'Éducation nationale et qu'elle n'a jamais été absente. Voilà.
Oui. J'ai envie de vous dire qu'on est un peu loin du sujet, en vérité. Et ça c'est mon avis. Je vais vous expliquer pourquoi.
Oui.
En fait, le vrai problème, c'est que bon, là, on est en 2024, donc là, il y a les JO qui se présentent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est et ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et ministre de l'Éducation nationale. Donc,
c'est
ils ont fondu les deux ministres en un.
Oui, c'est ça.
Et donc, moi, ce qui me choque le plus, ce n'est pas que son fils il soit dans le privé, c'est que comment, dans une année aussi charnière que 2024, on puisse se permettre de mélanger ces deux ministères qui ont une importance fondamentale.
Hmm.
Donc, symboliquement, c'est très fort. C'est une grande attaque aux deux. Je ne sais pas qui on dénigre le plus, c'est l'éducation nationale ou les sports et les Jeux olympiques. Mais en tout cas, ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème que je soulève, c'est que je ne sais pas si vous connaissez son mari, qui est Frédéric Oudéa.
Mmh. Oui.
La secrétaire générale est de Sanofi.
Oui. On n'a pas entendu, vous avez dit quoi ?
Il est président de la Société Générale, directeur
voilà.
Et président de la Société Générale et de l'entreprise Sanofi.
Mmh.
Et il est allé aussi nièce de Patrice Duhamel, qui est bel et bien en place dans les médias. Et j'ai envie de vous dire qu'on devrait un peu faire le ménage dans la division des pouvoirs,
oui.
Donc la République, la Révolution, etc. Il y a un nouveau pouvoir qui est l'influence et les médias. Et là, mon principal problème avec ce genre de ministre, c'est qu'on perd nos principes et nos valeurs par rapport à toute cette gestion-là, ministérielle.
Mmh.
Voilà,
bon.
Ça c'est. Là, j'ai l'impression que c'est un problème beaucoup plus important que la scolarité de son.
Non, ça c'est. Alors, vous avez raison de le rappeler. On a deux sujets. On a affaire à deux sujets. Ça c'est le premier sujet. Le premier sujet, effectivement, qui est la première polémique d'ailleurs, concernant elle est la nièce de Monsieur Duhamel, etc. Que il y a. On peut parler d'un conflit d'intérêts. Et puis il y a. C'est comment dirais-je ce comment pardon ce fameux cette fameuse déclaration à l'égard de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, est-ce que
en
vous faites partie de cette
déclaration? Elle est symptomatique. Elle est symptomatique, c'est-à-dire que je comprends complètement la colère qu'elle peut matérialiser. En fait, Amélie Oudéa-Castéra, en tant que personne, tout le monde s'en fout un petit peu. C'est vraiment ce qu'elle représente et on est d'accord sur ça. C'est-à-dire que là, avec tout ça cumulé, ça peut expliquer pourquoi elle reçoit une vague de haine, j'ai envie de dire, hein, par rapport à cette question-là. C'est-à-dire que s'il n'y avait que ça, je pense qu'on passerait à côté. C'est pas grave, mais là, ce n'est pas que ça. C'est vraiment, on dénigre jusqu'au bout l'éducation nationale, on dit on s'en fout, on mélange les deux ministères. Et en plus de ça, symboliquement, le fait que ses enfants ne soient pas dans le public, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, je veux dire.
Mmh. Est-ce que vous considérez, comme certains, comme elle d'ailleurs, que ce sont des attaques personnelles?
Oui.
Oui.
Et pour moi, lorsqu'on est. Quand on représente. Un gouvernement, un président qui a été élu par les Français, pour moi, on doit avoir un CV un peu irréprochable.
Mmh.
Et donc, le jugement personnel, pour moi, il est légitime au vu du statut qu'elle porte.
Bon, alors est-ce que vous considérez que sa démission est justifiée aujourd'hui, enfin sa démission, le fait que certains professeurs réclament sa démission?
Je pense qu'on est un peu fort, mais je trouve ça légitime.
C'est-à-dire
que personnellement, ça ne va rien arranger pour moi. Comme j'expliquais, quand on voit un petit peu la famille, c'est-à-dire qu'elle va être remplacée par qui, au final. Le pouvoir politique est un peu verrouillé sur ce point-là. Donc, je ne sais pas si la démission est une véritable solution.
Dites-moi, Soraya Rajdi, justement, dans le service public, vous savez, on parle de problèmes de remplacement, on parle aussi de problèmes d'assiduité, etc., etc. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, qu'il y a un vrai malaise au sein de ce mammouth, au sein de l'éducation nationale? Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez clairement, je vous pose la question, qu'il y a un problème chez les enseignants quand on parle évidemment éducation nationale du service public?
Mais complètement. Complètement, je peux vous le confirmer. Les professeurs sont de plus en plus fatigués, sont de plus en plus dévalorisés, que ce soit dans le salaire ou dans ce qu'on leur demande. Il y a de plus en plus de mutations, de personnes qui veulent partir, ne serait-ce que. Après, si on parle même géographiquement, il y a des différences. C'est-à-dire qu'on, dans les petites écoles, peut-être proches de la mer, etc., ils ne vont pas avoir les mêmes problématiques qu'en Ile-de-France. Et tous ces problèmes cumulés, on n'a plus envie de devenir professeur aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et ce qui reste,
vous êtes en train de me dire que la vocation de professeur d'enseignant qu'on avait il y a encore quelques années commence à disparaître ?
Je ne sais pas si c'est une disparition, mais en tout cas, il y a une diminution. C'est beaucoup moins attractif.
Ouais.
C'est beaucoup moins attractif. Ça, c'est sûr et certain. Et ce qui reste, je vais vous dire la vérité, ce sont soit des personnes qui n'ont pas le choix, soit des personnes qui ont une véritable vocation et qui ne se voient pas être devant un autre public que des jeunes. Donc voilà, ça donne. Ça
donc vous nous confirmez qu'il y a vraiment un malaise, effectivement, au sein de l'éducation nationale.
Ah, mais oui, et beaucoup plus qu'en 2009, lorsqu'elle accuse cette enseignante d'être beaucoup plus absente. Parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe.
D'entrée en exergue, vous nous aviez annoncé que effectivement vous vouliez donc la ministre de l'Éducation nationale est à la fois aussi ministre des Sports. Est-ce qu'il faut scinder les deux? Est-ce qu'il faut nommer une ministre de l'Éducation nationale et un ministre ou une ministre aussi pour le ministère des Sports?
Bien sûr. Et il me semble que c'était comme ça avant le remaniement.
Oui.
Parce qu'en fait, elle était ministre avant le remaniement des Sports et des Jeux Olympiques, donc elle n'a pas changé par rapport à ça. Donc là, elle cumule juste deux postes.
Et vous l'avez rappelé, à quelques mois de cet événement mondial, les JO.
Bien sûr, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est incroyable.
On commence à en parler, effectivement. Les syndicats d'enseignants vont se mobiliser le 1er février. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, effectivement. Je serai toujours pour la mobilisation.
Ouais.
C'est une mobilisation, les mobilisations, elles servent et si ça peut rappeler un peu qu'on existe et qu'on mérite d'être financé un peu mieux, pourquoi pas.
Elle loupe un peu son entrée quand même, Madame Oudéa Castéra, Aurélie.
Oui, complètement.
Amélie, pardon.
Pour un loupé, c'est un vrai loupé. Mais bon, franchement, je vous dis, au fond, ça ne m'étonne pas. Et même si on change de ministre, vous voyez, ça ne va pas changer grand-chose. Pour moi, il y a une refonte du politique qui doit être pensée, là. Parce que ça ne va pas du tout.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, justement? Qu'est-ce qui peut...
Écoutez, j'ai envie de dire, restez connectés, restez actifs auprès de l'éducation de vos enfants, c'est super important. Ayez confiance quand même aux enseignants, parce qu'ils sont là et ils font un travail monstre tous les jours pour que vos enfants puissent réussir. Et pour cette raison, il faudrait vraiment se mobiliser à leur côté.
Merci Soraya Rajdi, enseignante, professeure. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Les Informés. Merci Soraya Rajdi.
Merci,
au plaisir. Justement, vous savez quoi? Je vais marquer une pause, mais je voudrais vous entendre, chers amis auditeurs, parce qu'il faut qu'on mette aussi, nous aussi, les pieds dans le plat. Alors, je vais vous soumettre cette question-là, parce que est-ce que vous faites confiance, lorsque vous déposez vos enfants à l'école, est-ce que vous faites confiance à l'éducation nationale? Est-ce que vous faites confiance aux enseignants? Souvent, j'ai entendu le reproche, oui, les valeurs se perdent, l'éducation se perd, etc. etc. Et ben parlons-en justement, 01 53 48 3000. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que lorsque vous déposez vos enfants à l'école, vous êtes en confiance ou pas du tout? Ou est-ce que ça vous met évidemment dans un état de réflexion à vous dire je les dépose à l'école privée parce que ça me rassure, ou je les laisse à l'école publique parce que je trouve que c'est une bonne chose, ou alors peut-être vous avez une autre alternative. 01 53 48 3000. Eh bien, on vous attend, Solal vous attend au standard. Venez en parler avec nous, à tout de suite.
Les Informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les 19h20, les auditeurs ont la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Avant d'accueillir nos deux débatteurs influenceurs qui sont prêts justement à confronter leur point de vue, mais surtout à débattre, je vais accueillir Sarah de Paris. Bonsoir Sarah. Alors justement, l'éducation nationale, vos enfants, est-ce qu'on peut aimer Alors allons-y, parlons-en.
Vous savez, tous les jours, je vous assure, j'ai la boule au ventre parce que je ne sais pas ce qui va se passer.
Ah mince.
Déjà, si on n'est pas derrière ses enfants, c'est...
La boule au ventre.
Ah oui, vous ne rassurez pas, vous. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose.
Dans le public. Vos enfants sont dans le public.
Dans le public, oui. Oui, voilà, avant, ils étaient dans le privé. Le problème, c'est que là où ils étaient dans le privé, c'était hors contrat. Donc, j'étais obligée de les mettre à l'éducation nationale, école privée, enfin publique. Et voilà, donc si vous n'êtes pas derrière eux par rapport aux cours, par rapport à... C'est une catastrophe, quoi, c'est une catastrophe. C'est que c'est le programme qui est nul. Par exemple, quand ils parlent de fautes dans les dictées, ils disent soi-disant, ils vont faire des. Moi, quand ils étaient dans le privé, ils faisaient tous les jours une dictée. Là, dans le public, ils font une dictée par trimestre. Donc, vous imaginez un petit peu.
Ouais.
Donc, quand on fait une dictée par semaine, par trimestre, il peut pas évoluer.
Pourquoi, justement, ça m'intéresse. Pourquoi vous les avez retirés du privé pour
le public étaient, c'était une école hors contrat. Et les hors contrat, après, en fait, quand ils arrivent en troisième, ils peuvent plus intégrer les lycées, quoi. Donc, il faut vraiment qu'ils soient dans une école privée avec contrat ou voilà. Mais sinon, ils ne peuvent pas réintégrer le lycée, l'éducation nationale.
Donc, vous, si j'ai bien compris, vous avez quand vous les déposez à l'école, c'est la boule au ventre tout le temps en permanence, quotidiennement.
Ah, oui, il y a toujours quelque chose. Par exemple, cette semaine, on m'appelle, on me dit, votre enfant, il est en retard, il a des retards. Je dis, quel retard? Je dis, c'est moi qui les dépose. C'est pas possible. Non, mais c'était entre les cours. Je dis, attendez, entre les cours, je ne peux pas être là. C'est vous. Oui, parce que je l'ai vu, il était dans les toilettes, il accompagnait un copain, lui. Attends, c'est votre travail, c'est pas le mien. Moi, je suis pas dans l'école. Après, elle me dit, oui, vous n'avez pas signé le carnet. Je dis, si, j'ai signé, regardez bien, j'ai bien signé. Non, mais il y a toujours, on a l'impression, on parle d'harcèlement entre les enfants, entre les élèves, quoi. Mais en fait, il y a beaucoup d'harcèlement avec les ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas. Dès qu'ils disent quelque chose, il y a une croix, il prend son cœur et sa gomme par terre, et il a une croix. Mais, au bout de trois
mais
croix.
Pourquoi il y a ça? Non, mais est-ce que vous vous êtes posé la question? Pour quelle raison, effectivement, on vous parle de tout ça? Il doit y avoir un truc, ma chère Sarah.
C'est-à-dire.
Vous me dites qu'ils sont souvent absents entre les deux cours. D'accord, ou ils arrivent en retard.
Non, c'est pas souvent. Mais là, récemment, elle me dit oui, souvent. Je dis non, c'est pas possible. Regardez bien le truc, le carnet, non. Ils sont pas souvent absents.
Bon.
Donc, non, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Ils veulent vraiment faire des robots, des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, doivent écouter, ils doivent être là, et voilà, et c'est tout.
Vous avez confiance en l'éducation nationale, le service public ?
Non, je n'ai pas confiance. Parce que, par exemple, à la fin du premier trimestre, ils ont envoyé à tous les parents pour le bac professionnel. En fait, ils insistent pour que les élèves partent au bac professionnel. Enfin, ils n'ouvrent pas d'autres opportunités. Et certains profs, ils sont après les élèves pour leur dire oui, c'est bien, les bacs professionnels, vous pouvez travailler. Il y avait une élève, une copine à mon fils, elle lui dit, la maîtresse, elle lui dit oui, inscris-toi pour venir. Alors elle lui dit non, maman, elle ne veut pas. Elle ne veut pas bac professionnel. Elle lui dit mais c'est à vous, c'est vous, vous êtes responsable de vous-même.
Ouais.
Attends, un enfant de 12 ans, il ne peut pas être responsable de lui-même quand même.
Non, c'est trop tôt.
C'est trop tôt. Bon. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on n'est pas...
Rassuré,
non. Je ne suis pas du tout rassurée.
Merci Sarah pour ce témoignage, effectivement.
Et je vous remercie vous aussi de votre émission qui est très bien.
Merci beaucoup et restez fidèles.
Merci.
Restez fidèles. Merci pour votre fidélité. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Solal continue de vous accueillir, je vous le rappelle, pour parler de l'éducation nationale, pour parler aussi de l'école privée, pour parler, est-ce que vous avez confiance en l'éducation nationale, à l'enseignement de l'éducation nationale, puisque souvent, j'entends le grief, faire le grief, faire la remarque suivante, les valeurs se perdent, l'éducation se perd, etc. Donc parlons-en, 01 53 48 3000, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Je présente mes invités quand même avant et Solal vous accueille pendant ce temps-là au 01 53 48 3000. Alors, le représentant CGT, justement, il est avec nous, mais il est également auteur, Jimmy Dalidou. Oh là là.
Bonjour à tous.
Comment ça va, Jimmy?
Écoutez, ça va,
vous avez le sourire aux lèvres,
froidement, mais.
Ça, froidement, vous pouvez le dire, hein. Froidement, ça.
Froidement sur le plan social aussi.
Ouais, sur le plan social, ouais, bien dit. Ouais. Quel punchline.
C'est le gouvernement Attal qui jette un froid.
C'est ça. Ouais, c'est ça, gros froid. Même Macron, il va nous jeter encore un froid.
C'est vous qui jetez un froid, c'est pas le gouvernement.
Non.
Merwan, bonjour Mehoubi, comment ça va?
Bonsoir, ça va très bien, va Adil. Bien, bonsoir aux auditeurs. Très très bien.
Eh bien écoutez messieurs, nous allons parler, vous savez quoi, de ce sujet concernant la ministre de l'Éducation nationale, madame Amélie Oudéa-Castéra. Alors elle, je vais revenir sur la révélation de Mediapart qui accuse donc aux accusations de mensonges. Je résume rapidement puisqu'ils l'ont fait assez bien. Ça touche donc la ministre de l'Éducation nationale. Au départ, il révèle qu'Amélie Oudéa-Castéra a transféré ses enfants du public au privé, à Paris. Que la ministre justifie cette décision en évoquant sa frustration face aux heures non remplacées. On vient de s'apercevoir que c'est un premier mensonge puisque la prof elle-même a confirmé qu'elle était jamais absente.
Normal.
D'accord. Et d'autres témoignages, notamment journalistes que j'ai vus ce matin, qui ont confirmé que la prof n'a jamais été absente. Troisième, les syndicats d'enseignement, donc de parents d'élèves, bah, ils ont exprimé leur mécontentement. Du coup, ils ont annoncé qu'ils allaient faire grève.
Le premier.
C'est le premier absolument le 1er février. L'opposition d'extrême droite et de gauche s'engouffre dans cette polémique et tout le monde en parle. Bref. Est-ce qu'elle doit démissionner aujourd'hui ? La question se pose. Alors, Merwan Mehoubi.
Il y a quand même deux sujets. C'est celui d'abord de l'éducation nationale,
après,
du fait que ça a été complètement délaissé. Et le dernier signe que c'est délaissé, c'est qu'on est assemblé à la fois les sports et l'éducation nationale. Le gros sujet, c'est celui du service public. C'est le désengagement de l'État de tout ce qui est service public, que ce soit la santé ou l'éducation nationale. Et en fin de compte, au bout du bout, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est une ministre qui est complètement déconnecté et qui est aussi à l'image de ce gouvernement et de ce milieu macroniste qui est bourgeois au maximum et qui ne sait pas de quel sujet il doit traiter et comment il doit le traiter. Et donc voilà, on en est là, une éducation nationale laissée à l'abandon, les professeurs laissés à l'abandon évidemment, et le côté assez logique des choses qui fait que on n'a plus trop envie de laisser ses enfants au service public et à l'éducation nationale et on se dirige vers le privé, mais pour qui?
Pour ceux
qui ont les moyens.
Non mais attendez,
y compris dans
les quartiers populaires, certains,
bien sûr,
comment dire, se ruinent, je le dis,
bien
se
sûr.
Ruinent pour aller évidemment inscrire leurs enfants.
Ouais. Au final, on a deux sociétés
Je suis pas d'accord avec le terme que tu as employé, Merwan, sur le terme de déconnexion. Tu dis que la ministre est déconnectée d'un air de dire qu'elle ferait mal son travail, etc. Malheureusement, si. Alors, première, deux choses. Sur le mensonge, le mensonge en politique fait partie. La peur et le mensonge sont des armes de contrôle politique.
Bien
c'est
sûr.
Comme ça qu'ils fonctionnent. Peur et mensonge. D'ailleurs, je vous conseille un livre que j'ai fini de lire qui était très bien, qui a été écrit par Robert Charvin, qui parle de la peur comme arme de contrôle politique. Il vous parle de la règle des 3D. Vous connaissez la règle des 3D ?
Oui.
La règle des 3D, le premier D consiste, c'est la démoralisation. Le deuxième D, c'est la diversion. Et le troisième D, c'est la division. C'est les 3D qui vont être utilisés par la peur et le mensonge.
Pour pouvoir vous contrôler.
Le mensonge est tout à fait normal. Et en fait, il n'y a pas qu'elle qui utilise le mensonge. Mais en tout cas, pourquoi elle le fait ? Pourquoi elle le fait ?
Parce qu'en fait, c'est une politique.
Pourquoi est-ce que cet hyper-ministère qui a été créé reflète la voie de la privatisation de nos connaissances, de la connaissance de nos enfants ? Je vous rappellerai quand même que le privé,
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Dites-moi.
L'école publique émane
de quoi ?
des conquêtes sociales issues du Conseil national de la résistance, etc., etc.
Oui.
Ce sont des conquêtes sociales qui sont inhérentes que nos anciens se sont battus
sujets.
Comme d'autres services publics, le ferroviaire, moi je suis à SNCF, le ferroviaire, la santé, etc., etc. Mais rotation du capital oblige, la soif de profit des multinationales est particulièrement une soif qui est toujours présente.
On peut pas s'étonner qu'Emmanuel Macron mène cette politique.
Ils ont pulvérisé les conquêtes sociales. La privatisation, c'est quoi ? Est-ce que vous savez que les écoles privées sont financées par les familles, mais aussi par les collectivités territoriales et les communautés de communes ?
Oui.
Mais on constate aussi que dans certaines localités, la l'enveloppe que l'État donne aux localités pour qu'ils puissent se gérer, les enveloppes sont différentes selon la politique qui est en place. Si vous avez une localité comme en Seine-Saint-Denis qui sont encore communistes, qui sont encore des bastions communistes, eh bien, ils auront des enveloppes, elles auront pas beaucoup d'enveloppes, une enveloppe financière qui serait, ils ont pas beaucoup de thunes. Et si en plus vous ouvrez la voie à la privatisation, ça veut dire qu'en fait vous allez avoir un carnage de nos connaissances, une déflagration. Une déflagration sociale au niveau des éducations.
Si je peux me permettre, Jimmy Dalidou, la
destructrice,
c'est quand même quelqu'un de gauche et qui dit, enfin, qui parle de la destruction de nos
connaissances.
Quand on sait que c'est quand même le parti socialiste qui a mis l'idéologie dans notre éducation nationale et qui a voulu en faire une éducation dans laquelle c'est l'élève qui choisit ses connaissances. Et c'est l'élève qui va se faire son programme. Non, il y a un problème dans l'éducation nationale parce que justement, il y a beaucoup moins de rigueur, il y a beaucoup moins d'investissement et il n'y a pas de moyens donnés aux professeurs.
On va juste, avant de marquer la seconde pause, je voudrais juste accueillir Yasmina du 69. C'est où, Yamina ? Bonjour, Yamina.
Bonsoir, c'est sur Lyon.
Lyon ? Vous êtes lyonnaise ?
Oui.
Vous allez nous parler de l'éducation nationale ?
Bah, très brièvement, très rapidement, alors pas du tout dans le domaine politique, hein, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais c'est plutôt d'ordre personnel et du vécu.
Et bah, vous savez quoi ? Attendez Yamina, je lance juste la pause et on se retrouve tout de suite après, restez avec moi. Hein. Restez avec nous surtout, et vous savez quoi ? Et voilà, parce que ça mérite quand même, évidemment, toute l'attention, hein. Vous allez nous raconter évidemment votre témoignage. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Sur Beurre FM, oui, les informés. Alors, il est 19h37, on va récupérer Yamina, qui nous appelle de Lyon, une lyonnaise. Jimmy Dalidou, qui est avec nous, mais également Merwan Mioubi. Alors, Yamina, yes. On s'apprêtait à vous écouter justement concernant l'éducation nationale. Allons-y.
Alors, c'est à moi que vous adressez, là, c'est ça ?
Ah ben, je crois que c'est Yamina. Oui. On est une Yamina de Lyon, on est d'accord.
Oui, c'est bien, excusez-moi.
Eh ben voilà, c'est avec vous donc. Hein.
Parfait. Donc oui, effectivement, je vous disais que donc moi, c'est mon expérience personnelle. Dans le sens où j'ai 3 enfants, de, aujourd'hui 20 ans, 18 ans et 16.
Ouais.
Alors que ce soit privé ou public, puisque mes enfants, je les ai mis dans le privé dès leur primaire, jusqu'au collège.
Oui.
Ce qu'il faut savoir dans le privé, c'est qu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, on vous bride.
Oui.
Parce que souvent, c'est les parents qui, au niveau du financement, et qui sont également aidés par l'État en fonction de la réussite des élèves. En ce qui concerne le collège, en l'occurrence sur le brevet des collèges, pardon. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si l'enfant ne fait pas l'affaire au bout de en 5e, 4e, qui a des difficultés un peu plus que les autres ou autres,
oui.
Et ben on vous dit clairement, merci bien, mais la porte elle est là-bas, il faudrait plus en public.
Ah bon, oui.
Ah oui, vraiment. Mmh. Je pense que le privé, à mon sens, c'est aujourd'hui, ça, je pense que ça n'a pas les mêmes valeurs qu'avant. Ouais. Dans le sens où aujourd'hui, si on les met en privé en disant ben, on leur donne une chance supplémentaire de pouvoir s'épanouir, que les classes soient moins pleines, que ce soit un suivi un peu plus. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est une fausse idée qu'on se fait.
C'est une fausse idée qu'on se fait. Alors, du coup, vos enfants, vous les avez placés dans le service public
Alors, ensuite, malgré moi, parce qu'à un moment donné, pas mes plus grands, mais mon plus petit pour lequel l'école était assez laborieuse. C'était compliqué, il n'avait pas assez bonnes notes,
et
il n'était pas du tout fait pour ce profil-là.
Ouais.
Ensuite, par contre, des illusions quand on arrive en public.
Ouais, pourquoi ?
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le public, je rejoins la maman qui disait tout à l'heure, oui, on vous appelle toutes les 2 minutes, bah, parce que votre enfant, il est en retard, parce que votre enfant, il a oublié son stylo.
Ouais.
Alors, et aussi bien, comme elle disait la dame, j'ai tout à fait compris quand elle disait qu'il y a l'harcèlement des élèves, on parle beaucoup de l'harcèlement des élèves entre eux, l'harcèlement... Mais alors, l'harcèlement de l'administration du service public aux parents, parlez, hein.
Ouais.
Parce que j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, les profs, du moment que votre enfant ne rentre pas dans les cases, qui est un peu différent, ou qu'on vous dit que votre enfant il en demande trop, ou il ne vous en demande pas assez,
ouais.
Je peux vous garantir qu'eux, de leur côté, on sent bien qu'il y a un débordement émotionnel. Et à mon sens, après, ça ne m'engage que moi. Je pense qu'on leur a donné beaucoup trop de pouvoir aux proviseurs, et c'est des petits chefs faillons de leur...
Bon.
De leur établissement, ouais. Et qu'ils sont bien couverts par les les rectorats et autres.
Ça veut dire quoi, vous regrettez aujourd'hui ou que vos enfants soient dans le service public, c'est ça?
J'ai envie de vous dire que ce soit l'un ou l'autre.
Ouais.
Honnêtement,
l'un ou l'autre.
Je pense que nos enfants sont bridés, tout à fait. Aujourd'hui, ouais. On bride nos enfants.
Donc vous êtes en train de me dire, Yamina, que et dans l'un et dans l'autre, de toute façon, il n'y a pas une préférence.
Non, mais... Exactement, parce que quoi qu'il en soit, il y a des avantages et des inconvénients, soit dans l'un, soit dans l'autre.
Ouais. Merwan, attendez, il y a Merwan qui veut changer avec vous, Merwan et Jimmy Dalidou.
À force de réduire les moyens dans l'éducation nationale, on a promu quelque part la médiocrité à certaines échelles. C'est-à-dire qu'on a été chercher des personnes qui étaient de moins en moins qualifiées pour quelque chose qui est basique, qui est nécessaire à notre société, c'est l'éducation des jeunes générations. Et quelque part, on empêche à certains jeunes de se projeter et d'avoir une possibilité de s'élever dans la société en détruisant ce qu'a été en fait l'éducation nationale, ce qui a permis de faire l'éducation nationale, c'est-à-dire de faire que tout le monde s'intègre et que tout le monde puisse se projeter d'avoir des idées et de s'élever. Et donc les gens, par sécurité, se sont tournés vers une éducation privée où on avait encore ces valeurs-là. Et c'est vrai qu'il y a certaines limites, mais qui sont beaucoup moins dangereuses que celles qu'on retrouve dans l'éducation nationale, dans nos services publics.
Merci pour votre témoignage, Yamina. Je vous libère. Hein.
Je vous en prie.
Et bon courage à vous.
Merci.
Merci, au plaisir, du côté de Lyon. Jimmy Dalidou.
Oui, deux choses. La première, par rapport à ce que disait Amina, à revenir sur les prérogatives du personnel enseignant, etc., etc. Je pense qu'il y a un moment, il faut être aussi parent. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi?
Ça veut dire
qu'à un moment. Être parent, ça veut pas dire, une fois que vous avez fait vos enfants, il faut aussi les éduquer. Je pense que la principale erreur que nous faisons, que beaucoup de parents font, c'est de compter uniquement sur l'éducation nationale. Je pense que l'éducation nationale ne se suffit pas à elle-même en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Je veux dire, c'est un moment à nous aussi de faire des bons choix.
Oui, mais il y a un minimum quand même.
Oui, non, mais je veux dire, un moment.
Si dans les classements PISA, n'a fait que s'effondrer.
Mais tu vois bien,
il y a
combien de parents qui, pour pas être embêtés par leurs enfants, les laissent sur les iPads, les laissent sur les smartphones.
Oui, non, l'État peut pas se rendre chez les gens.
Des occupations. Et au lieu de leur dire, moi, mes enfants,
État qui rentrait chez les gens.
Le premier cadeau que j'ai apporté à ma fille, c'était quoi? C'était un livre. C'était des livres. Je l'ai familiarisé avec les livres. Et actuellement, ma fille, elle a presque 14 ans, lit des livres. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle ait un esprit critique. Il y en a combien des parents qui comptent sur l'éducation nationale alors qu'ils sont les premiers à dire qu'il y a un problème dans les conditions de travail.
Jimmy, ça c'est un fait de société. Oui, le niveau n'a fait que baisser. Mais pourquoi? Parce qu'on a promu la médiocrité, simplement. Et qu'au sein même de l'éducation nationale, le niveau s'est effondré parce qu'on ne donnait plus de moyens.
De nos conquêtes sociales. Et je parle bien de conquêtes sociales, je parle bien d'acquis social. Parce que je fais une distinction entre les deux. Nos conquêtes sociales ont été passées à la moulinette. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. On l'a dit, Macron, il sait très bien ce qu'il fait quand il pond un super ministère, c'est qu'il il finalise la destruction du service public et qui renvoie et qui développe la privatisation.
Ah, vous exagérez quand vous dites ça quand même.
Je finirai par le 1er février. Je crois que c'est important parce que nos camarades du syndicat
la manif.
Voilà, sont en train de peaufiner les procédures pour appeler à une grève. Je pense que cette grève du 1er février, elle est légitime, elle est justifiée. C'est important qu'il soit soutenu, que les parents d'élèves et que les autres syndicats d'autres secteurs soutiennent nos camarades syndiqués qui sont là pour justement mettre en avant les revendications des enseignants, justement.
Tiens, je vais aller du côté de Saint-Étienne, si vous voulez bien. Beaucoup de femmes ce soir, tiens, paradoxalement. Très peu d'hommes. Laïla, bonsoir Laïla.
Oui, bonjour, je suis Laïla et je suis enseignante.
Enseignante, justement, parlons-en. Allez, qu'est-ce que vous nous dites, vous? Quel est votre avis?
Eh bien, effectivement, moi, la dernière fois, je vais vous dire. Donc, j'ai pété un câble parce que mes élèves n'ont pas appris leurs leçons à 8h du matin, à mercredi matin. Moi, j'ai des BTS. Donc, je leur ai dit, vos leçons ne sont pas apprises, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Il va falloir réagir. Malgré mes nombreux avertissements, eh bien, je décide de ne pas faire cours aujourd'hui et je les ai renvoyés chez eux à mercredi matin. Ma direction m'a dit, mais vous n'aurez jamais dû faire ça, madame.
Oui, Vous n'avez jamais dû défaire ça, madame.
Ah, c'est... Renvoyer les enfants.
Ouais, ouais. Ça,
ouais,
ouais.
Mais c'est... Est-ce que c'est normal?
Merwan, il veut
des
échanger.
Enfants, c'est des étudiants. Non, non, ouais. C'est des étudiants qui ont un BTS à la fin de l'année, ouais. Qui doivent apprendre leurs leçons et qui refusent. Moi, ce que j'ai fait, effectivement, je n'aurais pas dû faire ça, mais je voulais les faire réagir. Vous voulez avoir votre BTS, il va falloir vous rouiller un peu plus la chemise et travailler. Malheureusement, les grilles d'évaluation, tout est fait, en fait, j'ai l'impression, pour donner le diplôme. Non, je suis désolée, un BTS, il faut avoir un bon niveau et il faut...
Ah, mais quelque part, est-ce que le niveau général, est-ce que le
Jimmy Delidou,
quelque part, je pose la question à l'enseignante, est-ce que quelque part, le niveau justement de fait, bah, les smartphones, les iPads, les est-ce que finalement la conscience des gens, est-ce qu'elle a pas régressé cette faculté de réflexion générale,
oui, c'est ça,
est-ce qu'elle
a
pas
régressé au niveau des professeurs, au niveau de la sélection,
en fait,
des professeurs,
est-ce que ça a pas...
Non, mais moi, je pose la question aussi au professeur.
Les élèves ne travaillent plus.
Moi, ça ne me pose pas de problème quand tu dis le goût du travail. En quoi c'est gênant?
Non, non, absolument pas. Mais est-ce qu'au niveau des professeurs aussi, le niveau n'a pas baissé? Est-ce qu'au niveau de la sélection des professeurs, le niveau n'a pas chuté aussi?
Non, non, on nous demande un CAPES, on nous demande un bac plus 5, on nous demande pour être prof d'anglais, moi, il a fallu que je parte un an à l'étranger. Non, le niveau n'a pas régressé. Par contre, le niveau des élèves a régressé.
Et est-ce que autour de...
Un des intervenants parlait de lire des livres. Moi, mes enfants aussi, ils sont tous dans une école publique, mes enfants. Par contre, j'ai choisi l'école en fonction des options.
En fonction des options. C'est quoi ces options?
Bah, ma fille, par exemple, elle fait la maîtrise de la Loire. La maîtrise de la Loire, donc c'est l'école le matin, l'après-midi, elle fait donc de la musique, donc du chant, de la chorale. Et donc, par conséquent, donc, c'est un bon niveau scolaire. Et voilà quoi, elle le fait avec le sourire en plus. Donc.
Bon.
On devrait peut-être intégrer l'option formation syndicale.
Ouais. Merci Leïla, madame l'enseignante, merci d'être intervenue. Elle n'a pas tort. Bon, effectivement, ouais, il faut responsabiliser un peu plus les étudiants.
Bien sûr. Mais enfin, je veux dire, c'est général.
Je crois que ce qu'elle a voulu dire, l'enseignante de Saint-Etienne, c'est qu'elle a voulu attirer l'attention, si vous voulez, de ses étudiants pour leur dire, attendez, là, mais vous êtes en train de...
Bah, en même temps, elle est engagée.
Oui, mais c'est général.
Niveau
c'est général.
Ils ne bossent pas, bah, elle est dégoûtée. Quoi.
C'est général. Tous les étudiants sont à ce niveau-là de responsabilité. Il ne faut pas imaginer que c'est un épiphénomène. C'est général. Il faut élever le niveau.
Avant de retrouver le quoi de neuf, parce qu'il est 19h47, je voudrais juste qu'on parle de ce gouvernement. Alors, beaucoup considèrent que ce gouvernement a été un peu composé de façon à ce qu'il soit un peu plus à droite. Est-ce que c'est votre ressenti, chers amis, débatteurs influenceurs, est-ce que ce nouveau gouvernement est tout simplement plus à droite toute même est-ce que c'est votre sentiment?
Est-ce que la vraie question, ce serait pas, est-ce que Macron a été un jour à gauche? Est-ce qu'il a été à gauche à un moment donné?
Bah, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée.
Oui, il a facilité la vente d'Alstom. Il vient de la Banque Rothschild. Il n'a pas un parcours véritablement de gauche. Bah, s'étonner qu'aujourd'hui on ait des politiques de droite.
Strauss-Kahn fait pareil. Il n'est pas de gauche. Voilà.
Bah, disons que la différence entre
Macron. Bah, oui. Mais c'est vrai. Dominique Strauss-Kahn, il était bien de gauche, non?
La différence entre Macron et les autres présidents, c'est que lui, en fait, il est vraiment le big représentant de la mondialisation à outrance. Et de là, et donc forcément, à partir du moment où vous êtes là pour son boulot, Monsieur Macron, c'est quoi? C'est d'uberiser la France. Il vous a parlé d'industrialisation. Non, il a pas industrialisé la France. Il a uberisé la France. Il y a une grosse différence entre les deux. Et à partir du moment où son objectif, c'est de détruire notre pays sur l'autel de la grande finance internationalisée, à la limite, il s'en fout qu'on soit à droite ou à gauche. Ce qu'il veut, c'est uberiser le pays. À partir de là, il prendra des connaissances à droite, des connaissances à gauche. En général, ce sont des opportunistes qui se vendent très facilement à partir du moment où ils ont leur compte rempli, très bien rempli à la fin du mois, et que au bout des 3 mois ils ont leur paiement pour, vous savez qu'au bout de 3 mois ils sont payés toute leur vie, c'est égal, hein. Donc à un moment, souvent ce sont des éléments opportunistes et qui se vendent comme on vend une baguette de pain à la boulangerie, et qui bossent pour un financier international.
C'est
du mépris de classe, cette politique.
Ça, c'est votre avis, c'est votre avis.
C'est du mépris de classe.
C'est un avis assez partagé au niveau français, je crois.
Allez, il est 19h50, on va retrouver le quoi de neuf, et ça, c'est avec Michel Taube, comme chaque lundi. C'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Michel Taube, bonne année. Comment ça va, mon cher Michel Taube? Vous nous avez manqué, Michel Taube.
Je vous souhaite une très très bonne année 2024 et à tous les auditeurs de Beurre FM.
Ouais. Et Jimmy Dalidou, le syndicaliste, qui vous souhaite une bonne année.
Michel. Meilleur vœu.
Merci, merci à tout le monde. Ouais. J'espère que l'année 2024 sera plus belle que 2023.
Bah écoutez,
on a quand même un petit peu souffert. Ouais. Mais
parlons-en justement, de souffrance. Vous êtes d'humeur aujourd'hui. Alors rappelons quand même que vous êtes le patron fondateur, le directeur fondateur du magazine en ligne, le média en ligne Opinion Internationale, et que vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur justement à l'annonce demain d'Emmanuel Macron. À quoi peut-on s'attendre justement demain soir?
Alors, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas, je ne suis pas le conseiller.
Nostradamus.
Je ne suis pas Nostradamus et je ne suis pas non plus le conseiller occulte d'Emmanuel Macron. Mais vous savez qu'il a annoncé en décembre dernier, début décembre, il avait annoncé qu'il proposerait en janvier un grand rendez-vous avec la nation. Et il semblerait que la conférence de presse de demain, qui est une conférence de presse XXL, une méga conférence de presse, certains disent qu'elle va durer plus de 3 heures, donc comme elle va commencer à 20h15, elle risque de finir peut-être vers minuit, que cette conférence de presse fait partie du dispositif de ce grand rendez-vous avec la nation. Bon. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qu'il pourrait annoncer? C'est très très difficile à dire parce que en fait, la réalité, c'est que le chef de l'État a les mains et les pieds liés. Il n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Non.
Donc, il y a plein d'initiatives qu'il voudrait prendre, qu'il ne pourrait pas prendre. Et donc, c'est difficile pour lui. On l'a vu en septembre, octobre dernier, il avait organisé, rappelez-vous, les rencontres de Saint-Denis, où il avait réuni à huis clos les dirigeants de tous les partis politiques. Et puis, finalement, dès le deuxième rendez-vous, ça avait fait flop. La plupart des leaders politiques avaient boycotté la séance et finalement ça a complètement échoué. Il avait organisé en septembre, il y a plus d'un an, le Conseil national de la refondation, nouveau CNR, qui lui aussi n'a absolument rien donné. Alors il existe plus ou moins, mais il n'a strictement rien donné. Exactement. Et donc il multiplie les initiatives, les grands effets d'annonce et il n'y arrive pas. Donc honnêtement, moi je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait faire. Alors je vais prendre un risque. Alors c'est pas forcément très sexy, mais ça me paraît très très utile et ça permettrait d'ouvrir un vrai débat dans la société française. Il va peut-être annoncer demain soir qu'il convoque un référendum pour dans 6 mois pour réformer l'État en profondeur et introduire une grande grande phase de décentralisation. Parce que un des grands problèmes de notre pays, c'est que tout est très jacobin. Tout est très centralisé, tout remonte à l'Élysée, tout remonte dans les départements, dans les communes, aux préfets. Et la France se meurt d'avoir un État beaucoup, beaucoup trop bureaucratique et centralisé. Et moi, je suis pour donner du pouvoir, donner de la liberté à toutes les collectivités locales, à tous les pouvoirs locaux, permettre, par exemple, vous voyez, Emmanuel Macron avait promis qu'il y aurait un professeur en face de chaque élève lorsqu'il y a de l'absentéisme. Quasiment impossible à réaliser. Laissons aux pouvoirs locaux le fait de recruter dans une commune des professeurs qui remplaceraient des professeurs absents. Donnons beaucoup plus de pouvoir aux pouvoirs locaux. Et donc là, il pourrait peut-être rassembler beaucoup de Français, obtenir une majorité, parce que je pense qu'une bonne partie du Parlement pourrait le suivre sur cette initiative, à commencer par Gérard Larcher, le président du Sénat. Donc peut-être qu'il va annoncer une profonde réforme de l'État. J'y crois à moitié, mais je l'espère un petit peu, parce que je pense que ce serait dans l'intérêt de nos concitoyens. Voilà une idée qui pourrait être dont il peut-être de saisir. Alors, je suis sûr que si ce n'est pas lui, il doit bien y avoir certains de ses conseillers qui doivent écouter Beurre FM et Adil Farkan. Exactement. Donc peut-être que ça va leur donner une idée. Mais voilà peut-être une initiative qui pourrait être utile et qui pourrait être un grand rendez-vous avec la nation. Après, ma crainte, c'est qu'ils se contentent de commenter l'actualité et que ça n'aille malheureusement pas beaucoup plus loin.
Bon, écoutez, espérons que votre proposition soit retenue. Écoutez, on verra bien. On verra demain. À suivre effectivement cette grande émission. Non, vous savez, le lapsus, vous avez entendu, Michel, le lapsus.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un animateur.
C'est une conférence de presse émission, parce qu'en fait, tous les médias quasiment vont le retrouver.
Merci Michel Taube, à lundi prochain.
Merci. Merci encore, bonne année encore une fois et à lundi prochain.
Allez, lundi prochain sans faute, prenez soin de vous et bonne semaine.
Bonne
19h54 déjà, la fin. Hein. Jimmy Dalidou, au plaisir.
Merci à tous.
Ouais, j'allais dire à demain, mais non, c'est pas à demain. À bientôt. Je suis comme ça, moi. Merwan Mioubi, journaliste, à bientôt.
Oui, à très vite.
Je rappelle quand même qu'il est auteur. Rappelez-nous, tiens, vos ouvrages.
Ouais, alors, les trois livres, vous pouvez
sur Amazon,
retrouver
le mec, hein, il est anti-capitaliste, mais on
un premier livre qui s'appelle
Il va s'adresser quand même à le plus grand capitaliste du monde.
Le premier livre qui s'appelle.
Il est bon, lui, hein.
Il faut bien L'Évangile de la philosophie de la Révolution, où je vous parle philosophie. Je mets l'accent sur la philosophie matérialiste. Philosophie idéaliste, philosophie matérialiste, c'est quoi les différences? Deuxième livre, l'anti-impérialiste, où je développe sur l'anti-impérialisme. Et le troisième livre, sur Danton et Robespierre, le choc de la Révolution. C'est quoi la différence entre les deux personnages et leur ancrage dans le mouvement.
On va les acheter, rappelez-nous, j'aime entendre dire ça. Rappelez-nous.
Vous pouvez les trouver sur Amazon. C'est pas très cher.
Casse, c'est quoi,
et vous avez accès à une autre analyse qui est totalement différente des autres.
Et moi, je sais pas, moi. Vous êtes dans le paradoxe, cher ami.
On peut être de gauche et aimer le profit.
Mais attendez, il est de paradoxe. Il est dans le paradoxe. Vous êtes dans le paradoxe. Milan Lendman, 2021, Vanessa, demain Kim. Quant à moi, demain, avec autant de plaisir. Prenez soin de vous, mais surtout. On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.